Voix Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. À Ouagadougou, au Burkina Faso, quatre hommes armés qui avaient pris pour cible ce vendredi l'ambassade de France et l'état-major des armées burkinabés ont été neutralisés par les forces de sécurité. Selon des témoins, il y a eu d'abord une explosion près de l'état-major, puis des hommes armés sont sortis d'une voiture et ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France. Des unités de gendarmerie et de l'armée ont été alors déployées sur place pour faire face aux agresseurs. Et dans un message posté sur sa page Facebook, l'ambassade de France a demandé aux ressortissants français de rester confinés là où ils se trouvaient. Des tirs intenses ont été entendus pendant une partie de la matinée, mais le calme est maintenant revenu. Ouagadougou a fait l'objet ces dernières années de plusieurs incursions djihadistes visant des cibles fréquentées par les Occidentaux. Et les symboles de l'État burkinabé, comme les gendarmeries et écoles notamment, sont régulièrement attaqués dans le nord du pays, frontalier des zones instables du Mali. Au Nigeria, au moins trois travailleurs humanitaires nigériens tués et trois autres blessés dans une attaque du groupe islamiste armé Boko Haram dans la nuit de jeudi à vendredi dans la ville de Ran, dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi une porte-parole de l'ONU. Les trois personnes décédées sont deux employés de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, qui s'occupait de la gestion d'un camp déplacé, et un médecin travaillant comme consultant pour l'UNICEF. Une infirmière a disparu et l'on craint qu'elle ait été enlevée par les assaillants. L'attaque a eu lieu à l'extérieur du camp de déplacés de Ran, près d'une base de l'armée nigériane qui était visée par les djihadistes, selon la responsable onusienne. Au Kenya, quatre policiers et un réserviste kényan ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord-est du pays, à la frontière avec la Somalie, par des membres présumés du groupe djihadiste somalien Shebab affilié à Al-Qaïda. Selon Mohamed Saleh, le plus haut responsable sécuritaire dans cette région, les assaillants ont attaqué pendant la nuit deux camps de police adjacents à Lafey, une localité du comté de Mandera. Violence en RDC, une conférence des pays donateurs se tiendra le 13 avril à Genève en Suisse pour lever 1,5 milliard de dollars afin de faire face aux nombreuses crises humanitaires en République démocratique du Congo. Les détails avec Anastasie Toudièche.
Pour Julien Arneis, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RDC, l'objectif est de mobiliser plus d'attention, de financement, mais aussi de l'assistance technique pour la RD Congo pour 2018 et les années à venir, afin de faire face aux urgences et aux multiples crises qui touchent directement les populations. La somme que l'ONU espère lever en 2018 représente le double des fonds demandés en 2017. En janvier, l'ONU avait lancé un appel pour obtenir 1,68 milliard de dollars pour une aide humanitaire, estimant que la situation y a atteint un point de rupture. En décembre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, avait indiqué qu'au moins 400 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère et pourraient mourir cette année s'ils ne sont pas assistés, rien que dans la région du Kasaï, théâtre d'affrontements qui ont fait des milliers de morts.
Au Congo-Brazzaville voisin, les États-Unis ont remis 30 millions de dollars au programme alimentaire mondial, le PAM, à titre de contribution pour les cantines scolaires du pays. Suite au repas servi à l'école, beaucoup d'enfants ont vu leurs résultats scolaires s'améliorer, nous dit notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngusu, qui s'est rendu dans une de ces cantines.
À l'école d'Iripont, à une trentaine de kilomètres au nord de Brazzaville, le repas est servi tous les midis à 838 élèves. Grâce au programme alimentaire mondial PAM et d'autres partenaires comme le Japon et les États-Unis, la cantine scolaire de l'école fonctionne normalement à la grande satisfaction des élèves.
Le riz avec les haricots, les sardines, les haricots, le riz, c'est tout.
D'autres élèves reconnaissent que les repas servis à l'école incitent plusieurs enfants à participer aux cours.
Mais parce qu'il y a les autres élèves qui n'aiment pas fuir à l'école parce qu'on mange le riz ici. Il y a les autres qui viennent pour étudier. Il y a les autres qui viennent seulement pour manger. S'il n'y a pas la nourriture, il y a les autres qui fuient.
Le PAM a ciblé 54 000 élèves qui bénéficieront de repas en cette année scolaire. Il s'agit en tout de 470 écoles reparties dans les départements des Plateaux, de la Cuvette, de la Bouenza, de la Lekoumou et du Poule. Jeudi, le gouvernement américain a offert 30 millions de dollars pour permettre aux PAM de pérenniser ses cantines scolaires. La directrice de l'école Jiripan, Firmin Samba Onzomba, affirme que la qualité de la nourriture servie dans ces écoles est bonne, appelant ainsi les parents à contribuer au bon fonctionnement des cantines scolaires.
Depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, on a reçu vraiment de bonnes qualités, que ce soit des petits pois, les enfants vraiment adorent ça. Et la qualité du riz, c'était bon. Jusqu'en fin d'année, les enfants vont très bien manger. Nous avons une situation du bois. C'est les parents qui devraient fournir du bois de chauffe pour préparer les vivres. Mais souvent, quand on fait passer le message, bon, ils ne réagissent pas vraiment en totalité.
Malgré la crise financière et le manque de vivres, le gouvernement s'emploie à faire exister ce programme. Il compte sur l'apport des partenaires internationaux, tels que l'admet ici Pierre Ngwala, directeur général de l'enseignement de base.
Ça n'a plus de plus attendu. C'est pourquoi vous me voyez me déplacer personnellement pour accompagner l'équipe du PAM. Autant nous avons manifesté notre joie de savoir que les États-Unis nous ont aidés, autant également nous manifestons notre joie pour d'autres partenaires qui nous ont donné, notamment le Japon, le Brésil, qui nous viennent en aide. Jusqu'au moment où il y a quelques embellis du point de vue de l'économie congolaise. Aujourd'hui, on a amélioré les choses, c'est parti de 60 à 70% de réussite. Pour nous donc, c'est quelque chose de sérieux, politiquement parlant, mais aussi pédagogiquement parlant.
Plusieurs autres cantines scolaires sont développées pour les enfants autochtones dans le nord du pays. Ngoela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Tchad, les syndicats tchadiens ont été reçus jeudi par le président Idriss Déby Itno, alors que le secteur public achève sa cinquième semaine de grève. Le point avec Jacques Aristide.
D'après un membre de la Confédération libre des travailleurs tchadiens proche du pouvoir, le chef de l'État a demandé aux syndicats de renouer le dialogue pour mettre un terme à la grève qui paralyse les secteurs vitaux, à savoir l'éducation nationale et la santé. Le président a indiqué que les mesures d'austérité ont été prises en conformité avec les bailleurs de fonds. La plateforme syndicale qui regroupe la CLTT, la Confédération libre des travailleurs tchadiens et deux autres syndicats doivent se réunir ce vendredi pour discuter de la réponse à apporter. La CLTT a suggéré au président Déby que s'il voulait faire des économies, il faudrait que le gouvernement fasse un audit du nombre de fonctionnaires. Réclamé par les syndicats depuis plusieurs mois, cet audit doit mettre en lumière le nombre de fonctionnaires fantômes qui serait au nombre d'environ 92 000. D'abord mobilisé contre un projet de loi de réduction des salaires, finalement abandonné par le gouvernement, les mouvements sociaux ont repris quand les fonctionnaires se sont rendus compte de coupes effectives dans leur salaire à la fin de janvier.
Tournée africaine du président turc Recep Tayyip Erdogan, le leader turc s'est fixé pour objectif hier à Dakar de doubler les échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal. La veille à Nouakchott, en Mauritanie, il avait annoncé une contribution turque de 5 millions de dollars pour la force du G5 Sahel qui combat les djihadistes dans cette région de l'Afrique. Les détails avec Abdourahmane Dia.
D'après le président Macky Sall, son homologue turc avait promis il y a 2 ans de porter le niveau des échanges avec le Sénégal à près de 250 millions de dollars. C'est maintenant chose faite et une nouvelle barre a été fixée à près de 400 milliards. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, M. Erdogan a multiplié le nombre d'ambassades turques sur le continent et les dessertes de la compagnie Turkish Airlines. Il a visité la nouvelle cité de Jamnagyo, dont plusieurs entreprises turques ont participé à la construction. Mercredi soir à Nouakchott, Recep Tayyip Erdogan a signé plusieurs accords bilatéraux dans les domaines de la pêche, de l'agriculture, des hydrocarbures et des mines. Il a aussi annoncé une contribution de 5 millions de dollars pour la force du G5 Sahel. Monsieur Erdogan, qui s'est rendu en début de semaine en Algérie, doit achever sa tournée africaine aujourd'hui par une étape de quelques heures au Mali.
Et pour terminer, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson se rendra en Afrique la semaine prochaine pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump. Le chef de la diplomatie américaine ira à N'Djamena au Tchad, à Djibouti, à Addis Abeba en Éthiopie, à Nairobi au Kenya et à Abuja au Nigeria du 6 au 13 mars. C'est ce qu'a annoncé jeudi la porte-parole du département d'État américain Heather Nauert. Le secrétaire d'État américain rencontrera les dirigeants de chacun de ces pays ainsi que les responsables de la Commission de l'Union africaine dont le siège est à Addis Abeba en Éthiopie. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.